Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouvons devant Dieu. C'est un rendez-vous avec Dieu avant du grand rendez-vous. Nous avons chaque dimanche un rendez-vous avec Dieu. C'est un moment sérieux, c'est un moment solennel. Nous le verrons même pendant les annonces, que c'est un moment où on devrait vraiment réaliser ce qu'est la maison du Seigneur. Beaucoup de nos enfants grandissent avec une telle éducation qu'ils ne réaliseront pas ce qu'est la maison du Seigneur. Nous en reparlerons pour les annonces pour vous dire que déjà, ça sera très sérieux. Je vous avoue que je suis profondément préoccupé. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je suis profondément préoccupé par la légèreté des croyants, de beaucoup de croyants. C'est une affaire d'autant plus sérieuse que Dieu dit que les pasteurs doivent veiller sur les âmes dont ils devront rendre compte. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église comme ils vont exactement se détendre dans un autre endroit. On n'est pas là pour se détendre, quoique je suis persuadé que la plus grande détente, c'est dans la présence de Dieu. Mais on n'est pas là pour se distraire. On est là pour adorer Dieu, bien sûr, c'est un culte d'adoration, mais compte tenu du fait que malgré cette affaire où tous les chrétiens devraient être sauvés, vous êtes d'accord? Tous les chrétiens devraient être sauvés. C'est presque un paradoxe de parler des chrétiens qui ne sont pas sauvés. L'Église devrait être édifiée de telle sorte qu'elle ne puisse avoir qu'une occupation, travailler pour le salut des âmes. L'objectif de l'Église, ça devrait être d'engranger les âmes perdues, de travailler à l'évangélisation du monde, de travailler à l'évangélisation des pays lointains, à travailler à l'évangélisation des amis à côté, etc. Mais le problème étant là, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, s'installant de plus en plus dans les églises, vous comprendrez bien que l'Esprit de Dieu va également parler aux chrétiens qui ne sont pas prêts. Et il y en a, hélas. Hélas, il y en a peut-être ce matin parmi nous. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas prêts? Alors on va le voir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pécheurs ont accepté le salut en Jésus-Christ. Ils se sont émerveillés devant l'œuvre de la croix. Et ils ont été bouleversés quand ils ont compris que Jésus-Christ était Dieu dépouillé de sa gloire. Ils ont accepté le pardon de leurs péchés, ça a été la joie la plus grande de leur vie. Certains n'ont plus cette joie, justement, à cause de cette tiédeur, de cette paresse que nous allons développer dans quelques instants. Pardon. Mais si c'est merveilleux d'obtenir le pardon des péchés, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester au pardon des péchés. Il y a des chrétiens, toutes leurs prières, Seigneur, pardon, pardon, vous les voyez 6 mois après, Seigneur, pardonne-moi, que ton sang me purifie, donne-moi, par le biais de ce pain et de ce vin, je veux retrouver la communion avec Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs, très sérieusement, si la marche avec Dieu, c'est essayer tous les dimanches matins de retrouver la communion avec Dieu, vous avouerez que ce n'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu va se faire. C'est extraordinaire de pouvoir retrouver la communion avec Dieu, oui ou non? C'est extraordinaire, mais vous avouerez que c'est quand même un problème si l'œuvre de Dieu ne consiste qu'à cela. Et je sais quand même, à force de prêcher, à force de prier, de me tenir devant Dieu, quand le Seigneur me pousse à partager certains sujets. La prophétie nous a entamé dans le sujet, lorsqu'il nous est demandé de considérer la bonté de Dieu, ça on sait le faire. Mais beaucoup de chrétiens ne considèrent pas la sévérité du Seigneur. Alors je voudrais lire avec vous un chapitre de la Bible. Je crois qu'il faudra que je vous explique ce livre pour la simple et unique raison que c'est nous qui sommes le plus concernés par la révélation. Donc dans l'Apocalypse au chapitre 6, on va lire cette ouverture des 7 sceaux. L'Église a été enlevée et nous entrons dans la grande tribulation. Apocalypse, chapitre 6, verset 1er. Nous allons lire tout le chapitre, s'il vous plaît. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable ? Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang et sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint comme noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face et devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Je répète, c'est une question, c'est Dieu qui la pose. Elle est sérieuse, le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? Ce sont des questions solennelles. Vous savez que Jésus a dit, lorsqu'il parlait des prophéties dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc, il dit « Je vous ai tout annoncé à l'avance ». Il a dit oui ou non? Il nous a, tout ce dont nous avons besoin de savoir, il nous l'a annoncé. Et je vous dis, cette semaine, j'ai vraiment été travaillé. Parce que je pense que Dieu voit l'état de certains chrétiens qui sont dans une légèreté spirituelle. Ils ne réalisent pas que nous sommes en plein dans les prémices de la colère. Et que ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église sera quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tant que l'Église est sur la terre, la colère de Dieu est maintenue. Et ce que vous voyez sont les prémices. Ce sont des signes prophétiques qui indiquent que quand vous verrez ces choses, le Seigneur est à la porte et qu'il va revenir. L'Église sera épargnée de la colère. L'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu. Noé n'a pas eu à subir la colère de Dieu. Il a été protégé de la colère de Dieu. L'Église sera sauvée de la colère. L'Église qui est prête, les chrétiens qui sont prêts, parce que la grande foule qui se tourne vers Dieu pendant la grande tribulation, ce sont la foule, certainement, de beaucoup de croyants qui n'étaient pas prêts et qui sauront exactement ce qui va leur arriver. Parce que laissez-moi vous dire, imaginez-vous que le Seigneur revienne là, dans la minute qui suit. Ceux qui vont rester, vous vous doutez de ce qui va vous arriver. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est une expression que l'on ne trouve que dans la bouche du Seigneur Jésus. Le Dieu, plein d'amour et de miséricorde, nous a exprimé sa sévérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises, on fait tout à l'emporte-pièce. Les chrétiens vont à l'église pour tranquilliser leur conscience. Ils ne réalisent, je ne parle pas de tous, mais écoutez, j'espère que je ne vais pas prendre 3 heures à vous expliquer que ces choses. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu m'a parlé pour aider tous ceux qui ne sont pas prêts. Si vous êtes prêts, eh bien rentrez à la maison si vous voulez. Mais si vous n'êtes pas prêts, restez. Personne ne s'en va. Je ne faites pas croire que tous vous n'êtes pas prêts. Si vous êtes prêts, je veux vous encourager à chercher Dieu, à chercher sa face, à être encore des instruments de bénédiction. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes prêts, vous allez participer à l'espérance bénie à l'enlèvement de l'Église. Mais vous comprenez bien que si un pasteur ne se préoccupe pas des chrétiens qui ne sont pas prêts, ça ne va pas aller. On peut faire n'importe quoi dans une église, ça ne va pas aller. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Je vous le lis. 2 Timothée 4, verset 1 à 3. « Je t'en conjure devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, reprends, censure, exhorte. » Il est soucieux de dire « mais fais-le !» Dieu va juger les vivants et les morts. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça vous préoccupe ou c'est virtuel? Pour beaucoup de chrétiens, c'est trop lointain. Mais vous rêvez, moi j'ai le boulot. Demain, j'ai un entretien avec le patron. Demain, j'ai la machine à laver à changer. Ben oui, je sais bien. Mais on a tous des problèmes. Mais mes frères et sœurs, je vous en conjure devant Dieu. Prenez cette affaire au sérieux. L'Église, Paul parle des gens qui sont rebelles, il parle des chrétiens, regardez ce qu'il dit, ne le cherchez pas, Tite 1, 13. Il dit, pour ceux qui sont rebelles et paresseux, les rebelles et les paresseux, et des rebelles, laissez-moi vous dire qu'il y en a. Des gens qui se rebellent à tout, alors ils ne se rebellent pas contre Dieu, pas ouvertement, pas contre l'autorité de Dieu, contre toutes les autorités, ce qu'on appelle les autorités déléguées. Sur la terre, votre patron, c'est votre autorité. Est-ce que vous êtes respectueux de votre patron? Voilà. Est-ce que vous êtes respectueux des gendarmes? Est-ce que vous êtes respectueux du maire, du président de la République? Tout ça. Si vous n'êtes pas respectueux, vous êtes un rebelle. Voilà. Et il dit, Paul dit à Tite, mais reprends-les, sérieusement, sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les sévèrement. Vous aimez la sévérité, vous ne l'aimez pas. S'il n'y avait que de la sévérité, ça ne serait pas équilibré. C'est sûr que s'il n'y avait que la sévérité de Dieu, mais le problème, c'est que dans les églises, on a tellement parlé de Dieu qui nous aimait, de ce gentil papa dans le ciel. Écoutez, tout ça, ce n'est pas sérieux. On s'éloigne de la sainteté, ce n'est pas ça. Et Paul dit à Tite, reprends-les sévèrement. Ils font profession de connaître Dieu. Quand on va à l'église et qu'on se promène avec la Bible, quand on prend la Sainte Cène, on fait profession de connaître Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il le renie par leurs œuvres. Étant rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, j'avais été dans une église, j'étais en vacances. Non, on m'avait demandé de prêcher. J'étais en vacances, et bien sûr, j'avais fait comme on fait quand chaque pasteur, quand on est en vacances, j'avais pris 3 ou 4 prédications dans mon cartable pour ne pas préparer une prédication. Vous voyez? Bon, c'est pas bien, enfin bon. Et à 3h du matin, j'entends le Seigneur parler. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. J'ai entendu la voix du Seigneur. Et je savais qu'il me fallait prêcher là-dessus, dans cette église. Et je leur ai dit, écoutez, je suis de passage, je sais que vous ne me réinviterez jamais. Mais ça ne fait rien. Je vais vous dire où vous en êtes. Vous êtes incapables d'aucune bonne œuvre. Alors c'est sûr que j'ai vu certains qui réellement se réveillaient, justement. Mais je crois que Dieu, il le sait. Et c'est ce qu'il faut parfois. C'est exactement ce qu'il faut. Ils font profession de connaître Dieu. Il dit, moi je suis chrétien, je connais Dieu. Je peux vous citer Jean 3, 16, je peux vous citer Amos 4, 12. Et voilà, c'est pas parce qu'on connaît des versets par cœur, des cantiques par cœur, des prédications par cœur, que l'on est prêt. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Et il le dit, Tite 2, 15, dis ces choses, reprends avec une pleine autorité. Alors, ce n'est pas une question d'imposer avec de l'autoritarisme une espèce de travail qu'on voudrait faire dans l'Église, une espèce de vision qu'on voudrait imposer. Vous savez, on l'a vu, ça, des pasteurs qui ont un esprit de contrôle sur l'Église et qui veulent orienter l'Église dans un programme. Moi, j'ai à cœur ci, j'ai à cœur ça. Alors là, il y a une espèce d'autoritarisme qui s'installe. Mais on n'est pas là-dedans. Quand il est dit reprends avec une pleine autorité, c'est par rapport à l'importance que vous vous appliquez à vous préparer à rencontrer Dieu. On peut lire un texte, regardez, Tite chapitre 3, verset 8. Il y a des choses, je ne sais pas si vous lisez les épîtres pastorales. Peut-être vous dites, oh, ce n'est pas pour nous, c'est pour les pasteurs. Mais enfin, laissez-moi vous dire, Timothée, Tite, chapitre 3, verset 8. Ce sont des choses, il faut qu'elles soient dites. Il faut qu'elles soient dites. Marquez-les, prenez votre Bible et notez-les sur un papier, relisez-les dans la semaine. C'est ça, apprendre à méditer. Heureux l'homme qui médite. Ouais. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine. Je veux, vous voyez, c'est sérieux. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Regardez, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Alors, c'est vrai, comme la prophétie le disait tout à l'heure, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça, c'est clair. On est sauvé par grâce. Mais dites-moi, lorsqu'un chrétien ne fait plus rien pour Dieu, c'est qu'il y a une explication. Il y a un aveuglement total, ça c'est sûr. Il y a un aveuglement parce que ce n'est pas possible d'avoir donné son cœur à Jésus-Christ et d'en arriver à un stade où on ne fait plus rien pour Dieu. En tous les cas, où on est arrivé à un stade où on a trouvé toutes les excuses pour ne pouvoir rien faire pour Dieu. Et l'apôtre Paul, qui lui justement parle aux Corinthiens, lui qu'il voit que certains chrétiens sont en train de perdre la communion avec Dieu, il leur dit ce qui est écrit ici, sur le mur de cette assemblée, que l'on utilise pour les pécheurs, ce qui n'est pas faux. Mais ce texte, il est adressé à des chrétiens de Corinthe qui avaient perdu la communion avec Dieu. Et il n'y a pas le dessus. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et moi, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs. Je sais que ces prédications sont écoutées des milliers de fois sur Internet, par une dizaine de radios dans les pays francophones. Et je sais très bien que ce n'est pas que pour vous. C'est pour des milliers de chrétiens qui entendront cette prédication. Mais, mes frères et sœurs, vous voyez que le Fils de l'homme est à la porte. Est-ce que vous le voyez que le Fils de l'homme est à la porte? C'est une affaire sérieuse. Quelqu'un qui se conforme au siècle présent. Vous savez, quand Paul nous demande d'offrir notre vie à Jésus-Christ, il dit, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Le problème, il est là. C'est que les chrétiens sont chrétiens à l'église et ils sont païens dans le monde. Et ils ne peuvent pas, à cause de cette ambivalence, ils ne peuvent pas discerner la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils sont bien dans l'église, mais ils sont bien dans le monde. Ou si ce soir ils regardent une cochonnerie à la télévision, ils seront bien, ils seront contents. Ils trouvent du plaisir dans le monde, ils trouvent du plaisir dans l'église. Ça s'appelle, dans la Bible, la tiédeur. Mais les tièdes, quelqu'un a dit qu'il les vomirait de sa bouche. Et vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est pas un pasteur légaliste, excentrique, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Quelqu'un qui se conforme au siècle présent, parce que c'est ça, l'amour du monde, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Ben parce que le roi de l'iniquité, vous comprenez bien qu'il va faire feu de tout bois, et bien pour que les chrétiens s'endorment, s'attiédissent. Et quand Paul écrit justement aux Éphésiens, il dit, mais voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Mais il y a des chrétiens, il n'y a aucune différence. Ils parlent comme les païens. Les païens se moquent, ils se moquent, ils aiment regarder des âneries à la télévision où on se moque des gens, des candidats, tout ça, et allez, et on se moque, mais ça ne rend pas compte, mais on rit, on fait que se détendre. Non, vous vous rebellez, il vous faut l'entendre. Mes frères et sœurs, si la crainte de Dieu a disparu dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on a laissé faire les choses. Et on a accepté la légèreté, oh il faut bien rire, bien sûr qu'on peut rire, est-ce qu'il y a un temps pour rire? Mais on peut rire sainement. Moi, j'aime rire. Je vous assure, j'aime rire. Mais je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas marrantes du tout. Et qu'on est dans un moment où les gens sont en train de se perdre, on ferait mieux de retrouver cette ferveur spirituelle pour que nos églises redeviennent des maisons de prière. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y a l'ignorance qui vient parce que les pasteurs ne font pas le travail, ça c'est clair, mais comme on le dit parfois, chaque chrétien a sa Bible. Et nous pouvons tous, même si vous êtes dans une église qui ne va pas trop bien, vous avez quand même la parole de Dieu et vous tenir prêt pour le rencontrer. Oui ou non? Vous qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être dans une église où ça bat de l'aile, ne vous conformez pas à cette pensée que si le pasteur ne va pas bien, vous pouvez vous autoriser à baisser le niveau. Non. Quelle que soit la piété du pasteur, quel que soit l'enseignement qui est donné dans une église, nous avons tous le même Seigneur, le même Saint-Esprit et la même Bible. Et nous devons nous appliquer à ces choses. Alors votre piété, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Parce qu'en fait de compte, tout est là. Et vous devez répondre. Vous devez vous répondre. Mais au fait, il y a un chrétien une fois qui m'a dit, mais c'est quoi la piété? Vous voyez? Mais votre piété, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce que vous veillez sur votre âme? Alors, il y a des textes dans la Bible qui sont très, très, très sérieux. Vous connaissez tous la parabole des talents. La parabole des talents nous indique des croyants qui ont reçu tous des capacités. Tous, en fonction de leurs capacités, ils ont reçu de la part du Seigneur qu'ils devaient faire quelque chose. Et lorsque l'on fait ce que Dieu nous demande, cela prouve qu'on a véritablement entretenu une communion avec lui. Oui ou non? Ça tient debout, ça. Hein? Celui qui a fait valoir le talent, le Seigneur lui a dit, entre bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, un peu de choses, voilà, je te confierai beaucoup, parce que nous, on ne calcule pas qu'après l'enlèvement, il va y avoir, après la colère de Dieu, le millénium, qu'on va régner avec lui sur la terre pendant 1000 ans, et qu'après, qu'il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y a un méga programme qui attend ceux qui sont véritablement sérieux devant Dieu. Alors, je vous pose une question, peut-être en prenant un verset biblique. Participez-vous à la bénédiction de Dieu ou subirez-vous le châtiment? Ça, c'est des questions qu'on doit poser. Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai pensé à un verset, celui qu'il y a dans Hébreux au chapitre 6. Dans Hébreux au chapitre 6, il est parlé, vous allez comprendre pourquoi dans la suite, pourquoi j'ai pris ce verset. Hébreux chapitre 6, verset 7. Il est parlé de deux cas de figure. Hébreux 6, 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile. Vous savez bien que Dieu ne s'intéresse pas à l'herbe, même si c'est lui qui l'a créée. Dans la Bible, ça nous parle de notre vie spirituelle. Une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc Dieu parle de ceux qui ont terrain, travaillé, qui permet de produire de l'herbe utile, donc il y a la bénédiction de Dieu. Le chrétien qui porte du fruit participe à la bénédiction de Dieu. D'accord? Par contre, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc le Seigneur Jésus parle dans ce texte des chrétiens qui ont un terrain, qui ont un cœur travaillé, entretenu, quelqu'un qui est très sérieux avec les choses de Dieu, voilà, c'est un terrain travaillé, il a un cœur honnête et bon, eh bien cet homme-là laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie et il porte des fruits. Il ne peut pas ne pas porter de fruits. Mais il y a ceux qui produisent des épines. Et les épines dans la Bible, c'est vraiment le symbole de la bénédiction. Vous vous rappelez que Jésus parle dans la parabole du semeur et des terrains? Pardon? C'est bien. Donc, elle participe à la malédiction. Ce qui est tombé parmi les épines, vous connaissez, Jésus parle de quatre cœurs. De toute façon, vous êtes dans un de ces quatre cas, c'est obligé. Il y a un cœur qui est comparé à un terrain où la parole de Dieu, comme c'est le cas maintenant, elle est semée. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de semer. D'accord? Je suis un semeur. La Bible dit qu'il faut semer. Il faut semer avec douceur. C'est vrai qu'un semeur, il ne faut pas qu'il sème n'importe comment. Dieu compare un pasteur à un semeur. Si vous avez déjà vu des agriculteurs qui semaient à la main, il y a une façon de semer. Il faut semer intelligemment. Mais il est dit aussi, pour ceux qui reçoivent, recevez avec douceur. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il y a la façon de semer Et il y a la façon de recevoir. Et ça, il n'y a que Dieu qui sait comment en ce moment vous êtes en train de recevoir la semence qui est jetée et que je m'applique à jeter, sans orgueil. Je le fais parce que je sais très bien qu'on est dans des temps tellement difficiles qu'il faut être sérieux, mais vraiment sérieux. Donc je m'applique à semer la parole de Dieu. Mais si ça tombe sur les épines, qu'est-ce qui est dit? Que ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, s'entendent. Ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. Des fois, il y a un semblant de fruits, mais il n'y a pas de résultat. On commence. Moi, j'ai déjà vu, mon père, il a plus de 200 arbres fruitiers chez lui. Et pourtant, il les soigne, il les traite. Mais il arrive parfois qu'au printemps, on voit des arbres qui fleurissent, il y a des bourgeons. Oui, moi, combien de fois j'ai dit à mon père, ah, il va y avoir des fruits. Attends l'été. Parce que des fois, les racines sont très mauvaises. Et si les racines ne sont pas profondes, tout ça, ça va dépérir. Et il n'y aura pas de fruits. Et pourtant, au printemps, il y avait les fleurs, les bourgeons. C'était magnifique, mais il n'y a pas de racines. Et c'est bien d'écouter, mais s'il n'y a pas de fruits, c'est vraiment grave. Mais je ne sais pas, mes frères et sœurs, vous devez vous dire, Monsieur Gau, il prêche avec passion. Mais ce n'est pas de la passion. Mais c'est un profond souci. Pour tous ceux qui ne portent pas de fruits. Alors si vous prenez les textes, Jésus dit, les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Alors, ce sont des chrétiens, ils écoutent la parole de Dieu. Même il est dit qu'ils écoutent avec joie, vous rendez compte? Mais il n'y a pas de racine, il y a un problème de profondeur et il y a un problème extérieur. Alors ça se voit plus ou moins. Quelqu'un qui est avare, par exemple, ça se voit pas de suite. Mais quand vous discutez avec lui, au bout de quelques mois, vous voyez quelqu'un qui a... On peut cacher. Mais les épines, ça ne se cache pas. Les mauvaises racines, ça peut se cacher. Parce qu'on ne les voit pas, c'est sous la terre. Mais les épines, ça finit toujours par se voir. Et il y a des choses qui se voient, qu'on devrait voir, qu'on devrait observer. Alors, il y a ces choses qui empêchent de porter du fruit. Alors, je vais utiliser la question qu'il faut utiliser, mais est-ce que vous êtes liés par ces choses? J'ai beaucoup réfléchi si je devais utiliser ce mot. Eh bien oui, je pense que j'ai l'autorisation du Seigneur pour vous poser cette question. Est-ce que vous êtes lié par ces choses, par ces occupations, par les soucis du siècle, par les plaisirs de la vie, par des excuses, en veux-tu, en voilà, je ne peux pas, j'ai les gosses, je ne peux pas, j'ai le travail, je ne peux pas. Écoutez, je suis désolé. Quand on a des enfants, il y en a, ils ont 3-4 gosses, ils persévèrent, ils marchent avec Dieu. Et là aussi, ça devient une invasion d'excuses qui empêche les chrétiens de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est les plaisirs de la vie? Il y a des chrétiens, une réunion de prière, ils sont fatigués. La maison de prière, non, moi je suis crevé, ce soir j'y vais pas. Par contre, le lendemain soir, qu'est-ce que j'ai la santé pour aller dans tel restaurant manger des grillades? Et puis ça me fera du bien. Mais vous savez que c'est vrai, et j'ai pas envie de rire. C'est bizarre comme pour aller à la maison de prière, on est fatigué. C'est pas vrai? Mais c'est pas vrai des fois qu'il y a un combat en même temps? Et c'est dingue comme pour aller au restaurant, hein, manger des grillades, ça nous fait du bien. Oui ou non? Est-ce que j'exagère? Est-ce que je règle des comptes? Ou est-ce que j'exprime des situations qui sont réelles dans le cœur de beaucoup de chrétiens? Et pour lesquels vous pouvez vous excuser ici-bas, vous pouvez vous trouver des explications ici-bas. Moi, je ne vous en demanderai pas. Je ne suis pas là, moi, pour chercher pourquoi vous ne venez pas à la réunion de prière. Écoutez, c'est pas. Je pense que, pasteur, veiller sur les âmes, ce que je suis en train de faire, c'est une chose. Surveiller les âmes, ce n'est pas le devoir d'un pasteur. Mais est-ce que vous êtes lié par un emploi du temps qui vous empêche de porter du fruit? Moi, je vous le dis, il y a des chrétiens qui sont liés. Ils sont liés par des occupations, par le travail. Le travail, c'est une bénédiction. Oui ou non? C'est une grande bénédiction, le travail. Mais on peut être empêché par la paresse. La paresse, c'est un lien. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail, déjà, il est frère de celui qui détruit. La paresse fera que beaucoup de chrétiens, à l'enlèvement de l'Église, ne seront pas prêts. Le chrétien paresseux, Je ne dis pas qu'il est paresseux pour son boulot. Il y a des gens qui sont très... Vous vous rappelez là, le gars qui avait fait valoir sa récolte, sa richesse, etc. Mais il avait négligé son âme. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont très actifs pour faire du sport. Alors là, je peux vous dire qu'ils ont de l'énergie. Pour bosser, ils ont de l'énergie. Et en plus, c'est bien. C'est très bien d'avoir de l'énergie pour du sport, d'avoir de l'énergie pour travailler, pour relever des défis au boulot, etc. Ça, ce n'est pas incompatible. Mais pour le Seigneur, ils sont paresseux. Et ne vous mettez pas dans la tête parce que vous êtes actif pour le travail, que Dieu pense que vous êtes actif dans son royaume. Et il faudrait que vous vous posiez sérieusement la question de la paresse et de la négligence. Les vierges folles, nous on ne les aurait pas appelées folles. Nous on les aurait dit, ouais bon, elles sont pas soucieuses, elles sont négligentes les vierges, ces vierges-là, elles n'ont pas pris assez d'huile. Nous on aurait été très 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 laxistes avec elles. On aurait dit, oh, on ne va pas commencer. Elles le sont perdues. Le Seigneur Jésus, quand elles vont frapper, va dire « Je ne vous connais pas ». Et ce sont des chrétiens qui attendent le retour du Maître, les vierges folles. Mais elles ont été négligentes. Et vous devez sérieusement, chacun d'entre vous, vous poser la question « Mais est-ce que je néglige l'œuvre de Dieu ? Comment je fais l'œuvre de Dieu ? Ou est-ce que pour moi, c'est une occupation, je vais dans une église, j'écoute un sermon, ça me correspond, c'est sérieux ce qu'il dit, oui, on reste dans la sainte doctrine, mais c'est pas ça. L'Église, ce n'est pas ça. Vous devez vous préoccuper du salut de votre âme. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que vous travaillez à votre salut ou est-ce que vous vous contentez d'un culte le dimanche matin en disant, voilà, nous, on a trouvé une église à Toulouse, on s'y plaît, c'est bien, on a un pasteur sérieux. Mais ce n'est pas ça que Dieu vous demande. Ce que Dieu vous demande, c'est de savoir si vous êtes utile et si vous participez à la bénédiction de Dieu dans son royaume ou si vous êtes réprouvé et participerez à la malédiction à cause de votre négligence, à cause de votre paresse. Le gars, il a enterré le talent, il a trouvé toutes les excuses possibles. Et il s'est autorisé, voilà. Il n'a pas eu peur de dire, voilà, je ne peux pas, et ceci, et cela. Mais écoutez, moi, je sais pas, je vous le dis peut-être très mal. Le Seigneur, il le dirait 100 fois mieux, je le sais. Mais je vous le dis, vous êtes en danger. Certains parmi vous, mais vous ne pouvez pas savoir comment vous ne réalisez pas. C'est un aveuglement. Vous ne vous rendez pas compte. Vous croyez que tout allait bien. Vous êtes comme les chrétiens de la Odyssée qui ne savaient pas qu'ils étaient pauvres, misérables, aveugles et nus. Et pour eux, tout allait bien. Et ils ne savaient même pas que Jésus était à la porte. Et l'église de la Odyssée, et c'est l'église qui représente les temps de la fin, elle est composée de vainqueurs, ça c'est sûr, mais elle est surtout composée de gens tièdes qui vont participer à la colère de Dieu. Je ne sais pas si vous avez envie de participer à la colère de Dieu. Parce que c'est écrit. Vous voyez, quelqu'un qui prendrait, qui spéculerait, moi j'ai entendu de ces trucs sur l'enfer, sur le paradis, moi je ne cautionne pas ces trucs. Parce que ce n'est pas biblique. Des gens qui ont été en enfer, qui ont écrit des bouquins sur... Moi je ne suis pas d'accord. Et des gens qui ont été au paradis, qui ont vu, enfin qui sentaient bon les fleurs, tout ça, vous voyez des trucs. Bon. Je me doute qu'au paradis ça doit être super bien. Mais si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas la peine de le rajouter. Mais ce qui est dans la Bible, je pense qu'on peut le dire. Ce qui est dans la parole de Dieu, on peut en parler. Et si Dieu a pris le temps, la délicatesse de nous accorder le livre de l'Apocalypse, laissez-moi vous dire, c'est pour nous aider à nous préparer à rencontrer Dieu. C'est un livre extraordinaire, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est pas pour faire des films apocalyptiques. L'Apocalypse nous parle de la révélation de Jésus-Christ et comment les choses vont se passer après l'enlèvement de l'Église, et que pour être sauvé après l'enlèvement de l'Église, il y aura plus la grâce, dont les gens ils seront décapités. Vous l'avez lu ? Est-ce que vous l'avez lu l'Apocalypse ? Ils payeront de leur vie, parce qu'à partir de l'enlèvement de l'Église, apparaîtra le fils de la perdition, je vous le résume, vous savez ce que c'est écrit, apparaîtra le fils de la perdition qui sortira certainement de l'Empire romain reconstitué, écoutez, on en prend le chemin, oui ou non? Vous n'entendez pas de temps en temps, il faut un nouveau gouvernement mondial? Vous l'entendez ou vous n'entendez pas? Il faut vraiment être sourd si vous ne l'entendez pas. Tous les chefs d'État les plus puissants de la planète parlent d'un nouveau gouvernement mondial. Il sortira de ce gouvernement mondial qui sera l'Europe reconstituée, un chef qui viendra, qui traitera une alliance avec Israël, et au milieu de cette alliance, il y aura une effervescence de persécution sur Israël. Ça va durer 7 ans, cette affaire. Les 3 dernières années et demie, ça va être vraiment grave. Vous voulez vivre ces choses ? Mes frères et sœurs, vous voulez vivre la grande tribulation? Vous voulez, pour pouvoir aller au ciel, être décapité? Il y aura un système, si vous n'acceptez pas la puce électronique sur votre main droite ou sur votre front, vous serez tué. C'est écrit ou c'est pas écrit? Écoutez, il y a 2000 ans, quand ils lisaient ça, on pouvait dire, qu'est-ce que c'est, une marque sur la main droite? Mais aujourd'hui, certains l'ont déjà. Moi, j'ai vu une émission il y a 4 ou 5 ans de ça au Portugal. Les jeunes, ils sont tellement éméchés dans les boîtes de nuit qu'ils se sont fait implanter une puce électronique sur la main pour pouvoir payer. Voyez un peu comment ils ont trouvé la solution pour gagner de l'argent. Ils l'ont, ça existe déjà. Et c'est écrit, ça a été écrit il y a 2000 ans. Alors c'est vrai que quand on le lit dans une Bible moderne, tout ça, on a l'impression que ça a été écrit aujourd'hui. Mais moi, j'ai des Bibles qui ont 200, 250 ans. Quand vous lisez déjà ça dans des vieilles Bibles, vous vous dites, mais c'est extraordinaire. On le réalise encore plus. Alors ceux qui sont liés par les épines, par les plaisirs de la vie, moi je vous en supplie les frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous le savez, je vous l'ai dit et je le redirai, parce qu'il faut que vous preniez conscience. Peut-être que vous venez pour la première fois, peut-être que ça vous plaît pas, ça vous choque. En vérité, ça ne m'intéresse pas votre réaction. Ce qui m'intéresse, c'est que vous entendiez la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, quand je passerai devant Dieu, moi aussi, j'ai envie d'entendre bon et fidèle serviteur. Parce que ce que vous entendez, moi, je me le dis aussi. Je veux être prêt quand Jésus reviendra me chercher. Des beaucoup de pasteurs ne seront pas prêts. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit à Dieu. Vous le savez bien. Vous savez bien. Mes frères et sœurs, moi, je veux être prêt. C'est la chose qui me préoccupe le plus. Mais je sais que la vérité, elle peut être liée par les hommes. Les chrétiens peuvent être liés par ses occupations. Mais la parole de Dieu peut être liée. Et si on ne dit pas ces choses, on empêche les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Pour ceux qui viennent pour la première fois, parce que je vois quelques regards quand même inquiets, mais vous vous en rappellerez de cette prédication. C'est bien. Matthieu 23. Regardez. Il faut l'entendre. Il faut vraiment qu'on entende la vérité. Dieu nous aime, vous le savez. Il nous aime et justement parce qu'il nous aime, il nous avertit de la colère à venir. Elle va venir la colère et ne subsisteront que ceux qui sont prêts, croyez-moi. Matthieu 23, il parle aux pasteurs, c'est des pasteurs. Les pharisiens, c'était les pasteurs de l'époque, comme aujourd'hui les prêtres ou les pasteurs d'aujourd'hui. Voilà. Matthieu 23. Et je peux vous dire que Dieu viendrait aujourd'hui dans nos églises, il dirait exactement la même chose. Malheur à vous, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On n'est pas sur la bonne voie, là. Hein. Scribes et pharisiens, hypocrites. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on ne veut pas perdre les gens. Matthieu 23, 13. Qu'est-ce que j'avais dit? Alors, Matthieu 23, rien. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous avez vu? Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Eh bien, ça, c'est le problème, ça. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le veulent. Mais mes frères et sœurs, quand on ne prêche pas toute la parole de Dieu, eh bien, on ferme aux hommes le royaume de Dieu. Quand on dit aux gens, mais donnez votre cœur à Jésus. Voilà, si vous acceptez Jésus-Christ, voilà le petit Jésus. Vous savez, dans la crèche, il faut l'accepter, le petit Jésus. Et il est venu pour nous. Il nous aime, le bon Dieu, etc., etc. Et on tourne autour d'une espèce de d'une religion sentimentale ou machin, je ne sais pas quoi. Mais ça n'amène pas les gens à rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'on a lié, nous, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les hypocrites. On a lié la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, mais c'est vraiment grave. Vous savez que ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et moi j'aimerais que ça se passe bien pour moi. Et pour vous aussi, parce que je crois que je vous aime, vraiment. C'est quand on n'aime pas les gens qu'on ne leur dit pas la vérité. C'est quand un père n'aime pas son fils qui le laisse faire et grandir n'importe comment. Ah c'est facile, moi je peux faire un sermon, un super sermon, je peux vous en faire un. Mais moi mes frères et sœurs, je veux que vous soyez prêts. Parce que le jour de la colère va venir. Et ce que vous voyez n'est rien. Vous entendez? Ce n'est rien. Parce que Dieu nous protège. Et combien je vous exhorte chaque jour, mes frères et sœurs, à supplier Dieu de vous protéger. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, tous les jours, je demande à Dieu, délivre-moi du malin. Tous les jours, parce que Jésus nous a dit, quand vous prierez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Tous les jours, mais je le dis pas avec ma tête, mais je dis avec mon cœur, délivre-nous du malin. Que l'Église soit protégée de toutes ces séductions qui sont en train de rentrer dans les assemblées. Oui, on peut être lié par la convoitise, on peut être lié par la paresse. Écoutez le mot, j'ai passé 3 jours à réfléchir, si je le disais. Si vous n'arrivez pas à servir Dieu à cause d'une occupation, de la paresse, des soucis, des plaisirs de la vie, vous êtes liés, vous devez être délivrés. Et il faut que les chrétiens qui vont bien, vous puissiez vous accorder pour délier ces chrétiens. C'est grave. C'est grave. Moi, j'ai connu un chrétien qui m'a dit, ça fait 15 ans que je veux servir Dieu dans l'église. Et il ne fait rien. Bon, c'est son affaire, après tout. Mais il est lié. Il a besoin de se mettre à genoux et de crier à Dieu qu'il le délivre de sa négligence, de sa paresse. Bien sûr qu'à côté des pots de vin par million à la tête du pays, vous allez dire un peu de négligence, un peu de paresse. Mais quelle affaire ! Mais le Seigneur ne vous demande pas de vous poser des questions par rapport aux affaires de l'État. Le Seigneur, il vous dit que t'importe les autres, toi, suis-moi. Voilà ce que Dieu vous dit ce matin. Et moi, je vous en supplie, les frères et sœurs, parce que je sais que ce jour arrive. Il arrive ce jour. Vous ne pouvez pas penser autrement. Mais c'est des choses sévères et je voudrais, on le fera, je voudrais vous amener dans le livre de l'Apocalypse et vous expliquer que l'Église ne peut pas traverser la grande tribulation. Et bien heureusement, on ne pourrait pas parler d'espérance bénie si on savait qu'on va traverser la grande tribulation. Franchement, je pense pouvoir, entre guillemets, vous prouver que l'Église, c'est impossible qu'elle traverse la grande tribulation. Par exemple, pendant la grande tribulation, personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Tous les rétrogrades qui ne seront pas prêts sauront très bien que, par exemple, si vous n'êtes pas prêts, vous vous rappellerez de cette prédication. Je ne serai pas là pour la refaire. Mais laissez, je sais quand même. Alors, si je suis fidèle jusqu'au bout. Vous ne pourrez pas acheter parce que vous serez, ça sera obligatoire. Ceux qui accepteront seront perdus. C'est écrit que ceux qui accepteront la marque de la bête connaîtront le lac de feu et le soufre. C'est écrit, c'est pas écrit. Donc, mais ça va être un gros combat, ça. Ça va être un combat terrible. Parce que là, on ne se rend pas compte de ça, ça foire un peu. Mais il y a la paix, il y a la grâce de Dieu. Tous les matins, il y a la miséricorde du Seigneur. Ses bontés nous sont renouvelées chaque matin. Oui ou non ? Comment êtes-vous venu ce matin dans la maison du Seigneur ? Est-ce que vous n'êtes pas venu quand même dans la paix, dans la joie ? J'espère que vous ressortirez pareil. Mais je veux dire, mes frères et sœurs, on est dans la paix. On ne réalise pas que ça va être un combat terrible. Il y aura une persécution qu'on ne peut même pas soupçonner. Il y aura une telle famine. Parce qu'il y a des pays comme la Corée du Sud qui vont être dans une défection pas possible compte tenu de la quantité de chrétiens qui sont en Corée du Sud. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, là je ne veux pas m'éparpiller. Mais ce que je veux dire, c'est que le chrétien qui acceptera la marque de la bête, il ira à l'enfer. C'est écrit, je peux vous le donner de suite si vous voulez. Alors ça fait, et ceux qui refuseront, eh bien, ils seront décapités. Ça vous donne une idée par rapport à ce qui se passera et comment ça, qui c'est qui gouvernera. Mais mes frères et sœurs, si on parle là-dedans, alors si vous l'interprétez comme une menace, tiens, c'est ça, dans les églises évangéliques, non, 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 ils prêchent, ils mettent la pression, non, 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 non. Je crois qu'on est droit devant Dieu et que ces choses, vous devez les entendre. Moi, je ne veux pas que la vérité soit liée. Il y a une dame qui m'a téléphoné hier, elle m'a dit, Monsieur Gau, vous étiez au camp dans les Cévennes, vous aviez tous ces ados, vous avez prêché sur l'enfer, il y a des jeunes qui ont été touchés. Moi, je suis dans une église, on n'a jamais parlé de l'enfer. Jamais. Eh bien, Monsieur Gau, vous avez bien fait. C'est ça lié la vérité. On ne veut pas en parler parce qu'on a peur que la prédication ne soit pas positive. J'ai lu ça dernièrement, un professeur de théologie, je te le conseillerais, Jérémy, un professeur de théologie qui disait à ses étudiants, voilà, quand vous construisez une prédication, arrangez-vous de telle sorte qu'elle soit positive, constructive, qu'elle ne blesse personne, voilà. Et bien moi, le professeur de théologie, quand il va passer devant Dieu, il risque de ravaler ses paroles. Il n'est pas question d'être pessimiste ou négatif, je ne sais pas, c'est une question d'être vrai. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et moi, je crois que toute la vérité de Dieu est constructive. Elle nous permet de nous ressaisir. Et si la parole de Dieu est sévère, on soupçonne derrière. Écoutez, n'importe quel chrétien né de nouveau ne peut que soupçonner derrière une prédication pleine de sévérité. Quoi ? L'amour du Seigneur qui veut nous ramener à lui. Il se tient à la porte. Il y a des églises où Dieu est à la porte. C'est pour ça qu'on ne voit rien se passer. C'est pour ça. Et que Dieu nous garde de faire en sorte que nous ne tombions pas là-dedans, que nous ayons beaucoup de respect. Et ce que je voulais dire dans les annonces tout à l'heure, je vais le dire maintenant. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, vous qui venez avec vos enfants. Certains enfants sont élevés dans l'église d'une manière très sérieuse. Les parents viennent, ils ont des petits livres chrétiens avec eux. Les enfants, ils ont un petit crayon, un papier. Ils écrivent, ils sont assis à côté d'eux. Il y en a qui arrivent, les garçons, les filles, avec les écouteurs, les Walkman, les PlayStation. Et alors, imaginez-vous un enfant de 7 ans. Il est là, sérieux, assis à côté de son père. Il a un petit livre chrétien. Et il voit, à 3 ou 4 places de lui, un autre enfant qui écoute de la musique païenne. Mais mes frères et sœurs, dites-moi que vous ne le faites pas exprès. Est-ce que vous croyez que c'est respecter la maison de Dieu que de venir dans une église et de laisser vos adolescents écouter de la musique païenne, de laisser vos enfants se lever 3 ou 4 fois pour aller faire la pause pipi, alors qu'il y a des nouveaux qui sont juste assis derrière et qui se demandent « mais qu'est-ce que c'est ce ramballe ?» de voir les gens qui se lèvent. Vous croyez que c'est ça la maison de Dieu ? Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire « monsieur, que vous exagérez ?» Vous devriez me reprendre de ne pas l'avoir dit plus tôt. Moi, vous savez, mes frères et sœurs, moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux la voir parce que Dieu veut que nous la voyions. Je veux la voir parce que Dieu est soucieux de se manifester avant l'enlèvement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à commencer à dire « mais quand même, on a un rendez-vous avec le Seigneur. Tous les gens qui arrivent en retard, vous croyez que c'est sérieux ?» Vous allez me dire, oh, monsieur Gaulle, là c'est vous réglez vos comptes ? Mais non, j'ai aucun compte à régler. On a rendez-vous avec qui le dimanche matin ? Avec monsieur Gaulle ? Avec qui avez-vous rendez-vous ? Parce qu'il y a des églises, vous savez ce qu'ils font ? Alors, ils avaient le culte à 9h, comme les gens arrivent à 9h20, ils ont mis le culte à 9h30. Bon, ils ont vu, avec beaucoup de sagesse avec le conseil d'administration, comme les gens arrivent à 9h20, on va mettre le culte à 9h30. Ah ! Ils ont mis le culte à 9h30, 3 ou 4 ans après, les gens ils arrivaient à 10h-10. Ah, maintenant, le culte est à 10h. Et il y a des églises qui font le culte maintenant à 11h. Chez nous. Ouais. Et vous voyez, mais c'est à nous, à nous adapter à la légèreté des chrétiens, ou c'est plutôt aux croyants sérieux à élever le niveau pour qu'il y ait dans l'église la piété que Dieu veut. Alors, le retour, on poursuivra ce sujet et on continuera quand même la vie de l'Esprit, mais tout ça, ça marche ensemble. Parce que vouloir être baptisé du Saint-Esprit et ne pas respecter le béaba de sa conduite dans l'Église, ça ne tient pas beaucoup debout. Alors mes frères et sœurs, j'ai tenu à ce qu'on prenne la Sainte-Cène après la prédication. C'est important pour moi, mais je termine. Êtes-vous liés par l'avarice ? L'avarice, c'est l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Êtes-vous lié par des occupations ? Moi, je pense que c'est bien de se détendre un peu. Est-ce que c'est bien un peu de détente ? Ah, mais il y a des gens, j'aurais pas dû le dire ça, vous voyez. Parce qu'ils l'ont bien compris, ça. Ils l'ont très bien compris que la détente, c'était très intelligent. Mais est-ce que vous êtes pris par les plaisirs de la vie ? Comment vous expliquez le fait que vous ne pouvez pas participer à une réunion de prière ? Comment l'expliquez-vous ? Peut-être que vous avez des explications qui tiennent debout. Mais est-ce que, franchement, dites-moi, est-ce que puisque Jésus a donné qu'un seul nom à sa maison, ma maison est une maison de prière, est-ce qu'il ne faut pas s'accorder ? Les chrétiens bouillants, je parle maintenant aux chrétiens bouillants. Mes frères et sœurs, il faut que nous nous accordions ensemble pour délier. Parce que j'ai été beaucoup interpellé par cette... Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs prières. Il y a la louange, il y a l'action de grâce, le pécheur qui vient, qui demande pardon à Dieu, les prières de repentance, il y a les prières de supplication, les requêtes quand on prie tous les jours pour les frères et sœurs au Mali qui sont persécutés. Il y a des requêtes, il y a tout un tas de sortes de prières. Mais il y a une prière qui s'appelle la prière d'autorité. Cette prière d'autorité, elle ne peut être faite que par les gens qui obéissent. Je vous l'expliquerai, c'est très 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 sérieux et c'est très profond. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, ne vous commencez pas à lier et à délier, ça ne marchera absolument pas. Mais la prière d'autorité, c'est les chrétiens qui la font lorsqu'ils sont ensemble. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est pas seul, il faut être, c'est l'image de l'Église. Mais cette prière d'autorité, elle n'est bénie que, ça c'est M. Olé qui nous a appris à respecter les choses, on ne peut pas prendre un texte, le contexte de la prière d'autorité, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, vous connaissez la suite. Jusqu'à ce que le gars, il soit mis en discipline pour qu'on lui donne la possibilité eh bien, de se repentir. Et je l'ai fait dernièrement, je l'ai fait discrètement, la personne elle a mal réagi. Mais c'est très bien qu'elle ait mal réagi, dans le sens où elle sait que, eh bien, il faut qu'elle se repente tout à nouveau. Et c'est aimer les gens que de les amener à une certaine mise en discipline, parfois. Mais mes frères et sœurs, nous voulons nous accorder pour que les gens soient délivrés, eh bien, il faut qu'il y ait de la discipline dans l'Église. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Peut-être ça vous plaît pas, peut-être vous dites, oula. Mais c'est pas compliqué, c'est la preuve que nous aimons les gens et que nous voulons qu'ils ne restent pas dans le péché. Et voyez, je sais par exemple, j'ai vu cet ado-là qui se promène avec les écouteurs, je vais le voir. Il viendra dans mon bureau et je vais lui parler avec beaucoup d'affection, comme si c'était mon fils. Et je vais lui expliquer que dans la maison, ça ne serait pas moi le faire, me semble. Moi, il me semble que c'est les parents qui doivent le faire. Mais tant pis, je vais le faire. Et si vous voyez quelqu'un qui commet un péché, dites-le moi. Ce n'est pas du cafardage. Je crois que dans la maison du Seigneur, on doit veiller les uns sur les autres. Oui ou non? Mais voilà, est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? C'est un frère à péché. Ah non, je le dis pas. Qu'est-ce qu'on va penser? Eh bien, on va penser. Mais si vous vous trompez, eh bien, on réglera le problème. Mais ça vaut pas la peine quand même, mes frères et sœurs. Ça vaut pas la peine de respecter toute la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? On va fermer les yeux quelques instants. Je vous pose la question. Vous savez, c'est vraiment solennel. Monsieur de Dieu Norbert, s'il vous plaît. Vous pouvez choisir des frères. Des frères et sœurs, sérieusement, fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous qui êtes là ce matin, et tous ceux qui écouteront cette prédication par les radios et par le biais d'Internet et de l'enregistrement, comment pouvez-vous répondre à cette question? Le jour de la colère est venu. Qui pourra subsister? Eh bien, il vous faut prendre tous les textes où il est parlé des pleurs et des grincements dedans, et vous verrez ce qu'il faut faire. Il faut faire l'inverse. Vous êtes un hypocrite? Eh bien, il faut redevenir honnête devant Dieu. Vous êtes paresseux, eh bien, il faut devenir actif pour le Seigneur. Mais si on n'est pas sauvé par les œuvres, il n'empêche que les œuvres sont le résultat de la communion avec Dieu. Mes frères et sœurs, si vous êtes négligents, ne dites pas, c'est pas grave, le Seigneur le sait. Oui, le Seigneur sait que vous serez du mauvais côté de la porte quand il y aura l'Église enlevée. Le Seigneur le sait, et avez-vous envie de connaître ses pleurs et ses grincements dedans? Mes frères et sœurs, vous qui ne faites plus rien, qui priez juste 3 ou 4 minutes le matin pour commencer la journée, ça vous tranquillise plus qu'autre chose. Écoutez-moi, tenez-vous devant Dieu. Dieu vous montrera. On a besoin dans l'Église. Le Seigneur a besoin de vous. Pour la prière, mon épouse me dit parfois, peut-être un jour il faudra fermer des classes d'école le dimanche. Un dimanche sur 4. Il y a besoin d'animateurs, de gens consacrés. Alors ne faites pas quelque chose pour faire quelque chose. Mais tenez-vous devant Dieu, vous devez savoir ce que vous devez faire. Dieu ne veut pas que vous enfouissiez le talent. Je vous le dis devant Dieu, si vous ne faites pas valoir le talent, si vous êtes paresseux, négligent, vous ne serez pas prêt. Si vous êtes tiède, Dieu vous vomira de sa bouche. Et vous connaîtrez la colère de Dieu. Alors profitons de ce moment de Sainte Cène pour prendre la victoire, pour être délié et demander le secours de Dieu, de vous délivrer des plaisirs de la vie, de l'invasion des convoitises. Et croyez-moi qu'avec tout ce qu'il y a sur la terre, on est envahi de convoitises de toutes sortes. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes prêts, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui avez la communion avec le Seigneur, même si vous avez besoin d'une victoire, ce n'est pas pour ça que vous êtes tous perdus, mais quand même. Certains, vous savez, si vous êtes dans la paresse, dans la négligence, il vous faut prendre la victoire. Mes frères et sœurs, levez-vous à votre place. Levez-vous consciencieusement. C'est devant Dieu que vous vous levez, ce n'est pas devant Monsieur Go, devant les frères, c'est devant le Seigneur que vous lui dites, Seigneur, je viens à tes pieds. Je viens tel que je suis. Tu vois, Seigneur, comment je suis inquiet par rapport à mon âme. Je peux être quelqu'un insoucieux, mais c'est très bien si vous l'êtes. Ça prouve que vous êtes encore accessible. Si vous êtes avare, parce que c'est une chose que Dieu m'a montré, c'est le sujet le plus délicat à aborder dans une église. Et ce n'est pas parce que l'église marche bien que vous devez vous dispenser de faire ce que Dieu vous demande, parce que les avares... Laissez-moi vous dire que quand vous voyez ce que Dieu a dit dans le prophète Malachie, là aussi, c'est la preuve que vous avez un autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, humilions-nous sous le regard de Dieu, avec joie, parce que Dieu va nous bénir. Mes frères et sœurs, je vais prier. On va prendre le pain et le vin. Je voudrais vous supplier, ceux qui sont dans ce cas de figure, je le répète, la négligence, que les épines vous étouffent. Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. La seule chose qui peut vous permettre de le voir, je le répète, c'est que vous êtes incapable de faire une œuvre. Incapable, vous ne faites rien. Et ça, c'est révélateur. Il vous faut vous ressaisir. Notre Père, notre Dieu, oui, tu nous as tout annoncé à l'avance, tout. Merci, non seulement d'avoir porté nos péchés au calvaire, d'avoir tout accompli en versant ton sang pour laver nos iniquités, mais que tu as été bon de te révéler à l'apôtre Jean, que tu as été bon de nous parler au travers de l'apôtre Paul. Vraiment, Seigneur, tu es bon. Oui, tu nous as tout annoncé à l'avance. Comment pourrions-nous avoir des excuses pour ceux qui ne seront pas prêts? Seigneur, nous te supplions de bénir les églises de Toulouse, de bénir le corps de Christ dans ce pays. Tu vois combien l'apostasie, l'iniquité est entrée dans les églises. Nous te supplions de nous aider à retrouver le respect de ta maison. Que ta maison soit remplie de ta présence. Que tu ne sois pas à la porte en train de frapper, mais que tu sois à l'intérieur en train de bénir et de guérir. Que tu sois à l'intérieur de l'église en train de sauver des âmes. Oui, Seigneur, nous te demandons ton aide et ton secours. Et que ce moment de Sainte-Cène ne soit qu'un moment de victoire et de délivrance dans le cœur des chrétiens assemblés ce matin dans cette assemblée. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.